Chapitre 7. Le rivage des dieux. Cachées dans les profondeurs de la forêt, les ruines d'un temple vieux de 3000 ans témoignent que l'homme a toujours considéré Davega comme un lieu sacré. En hindi, Davega ou Daoga signifie la rive des dieux, mais Deo signifie aussi deux. Ce n'est peut-être pas un hasard. Le confluent de deux rivières a toujours été considéré comme une terre des dieux. Sur les hauteurs qui dominent le confluent, des dizaines de sanctuaires occupent le centre de deux petits villages habités par la caste divine des Brahmanes. Ceux-ci n'ont rien à voir avec les Brahmanes hautains et riches de l'Inde, mais sont de pauvres prêtres paysans. Ces villageois nous fournirent un premier échantillon de la grande variété de types humains qui habitent cette région peu connue du Népal. Gardiens des temples, humbles servants de Shiva et fils de Ganga, ils labourent la terre et, deux fois par jour, à l'aube et au crépuscule, ils rendent hommage au dieu des eaux. En fin d'après-midi, après avoir mis au point nos aéroglisseurs, nous nous mîmes en quête d'un meilleur emplacement pour notre camp. Nous nous en trouvâmes un, à 400 mètres plus haut sur la rive du Marchiandi, où trois terrasses herbeuses, à l'ombre de grands arbres, s'étageaient au flanc d'une colline douce. Ce site dominait une plage de sable fin à l'abri d'une falaise rocheuse formant un petit port de rêve. Nous changeâmes le camp à l'aube, le lendemain. De Marchiandi jaillissent à nos pieds une gorge profonde et lançait sa masse d'eau grise au pied d'une falaise de granit avant de se jeter dans les îlots bleu-vert du Kaligandaki. Ce dernier, lui, débouchait d'une montagne abrupte, recouvert par la jungle, la dernière d'une série apparemment interminable de pics qui formait notre horizon au nord, la grande chaîne du Mahabrahma. Le moment était venu de faire des plans. Étant incapable de deviner les obstacles que cachait la première boucle des rivières, ce n'était pas chose facile. Notre objectif était double. D'abord, tenter de remonter le Kaligandaki vers le nord, le plus loin d'en deçà des limites qui nous interdisaient, pour le moment, d'accéder au sommet enneigé. En même temps, faire une étude comparée de la flore, de la faune et de la population humaine de ces rives. En descendant le Kaligandaki de Davega jusqu'à la frontière de l'Inde, à une centaine de kilomètres vers le sud, et en remontant en-delà de la chaîne des monts Mahabrahma, nous aurions traversé la moitié du Népal. Plus tard, si nous obtenions l'autorisation de poursuivre jusqu'à la frontière du Tibet, nous traverserions alors tout l'Himalaya. Nous pourrions ainsi avoir une image continue de l'évolution des hommes, des animaux et des plantes selon l'altitude et les niveaux climatiques. Après les essais de la tribénie, nous nous sentions tous d'attaque pour aborder le but principal de l'expédition. Nous étions en pleine forme et bien endurcis pour ce qui nous attendait. Nos peaux tannées étaient habituées au soleil et nos mains calleuses étaient rodées à toutes les réparations. Vers 5 heures du soir, nous étions impatients d'aller tâter les rivières. Laissant à Marie-Ange et aux deux Sherpas le soin de préparer le dîner, nous descendîmes sur la plage. En bouchant mon gilet de sauvetage, un instant, je pensais à nouveau au danger de notre mission, à la force démentielle des eaux torrentielles que nous allions affronter. Mais j'avais confiance, et Michael lui-même, d'ordinaire si sceptique, qu'il aurait trouvé un crapaud dans le diamant le plus parfait, ne fit rien ou presque rien pour refroidir mon regain d'enthousiasme. Il m'avait même dit la veille qu'il commençait à croire en nos aéroglisseurs. Venant de lui, ce compliment m'avait beaucoup encouragé. Nos moteurs se mirent à ronronner. L'un après l'autre, comme des cubes de glace sur une table inclinée, nous glissâmes sur la table, puis en travers du courant, avant de foncer vers l'est face au Marchiandi. Des hérons argentés s'envolèrent des rives à notre passage. Nous remontions la rivière, la plus large que nous avions rencontrée jusqu'alors. Nous guettions le premier grand rapide. Nous l'entendîmes bientôt mugir, large et puissant. Quatre vagues monstrueuses roulaient le long d'une rive. L'autre était bordée de paliers rocheux qui formaient une cascade blanche obstruée par des piquets qui maintenaient les masses des pêcheurs locaux. L'un derrière l'autre, nous décrivîmes une large boucle vers les petites cascades plutôt que de prendre le risque d'affronter les grandes vagues. Quelques secousses suivies d'une légère petite perte de vitesse et nous atteignîmes un plan d'eau tranquille. À droite et à gauche s'élevaient maintenant des falaises rocheuses et de loin en loin, un énorme rocher émergeait au milieu du lit. Au-dessus de nous, des oiseaux de toutes espèces se détachaient en noir sur le ciel du soir. Lancés à 40 à l'heure, le visage fouetté par l'écume, j'éprouvais une sensation grisante de puissance, l'illusion d'être plus fort que les tonnes d'eau se ruant à notre rencontre. Un autre rapide se présenta. Il fallait décider très vite de quel côté nous allions passer. J'appuyais à gauche, puis, gêné par des rochers, à droite. Je franchis quelques paliers et soudain, je me mis à perdre de la vitesse. Michael et Bob me dépassèrent. Maintenant, je glissais vers l'aval. Je tirais sur le levier de direction, paniqué à l'idée de reculer. Mon aéroglisseur pivota face aux grandes vagues qui déferlaient à quelques mètres. Je heurtai un rocher de la rive et m'arrêtai. D'un bond, je fus sur la terre ferme. Je voulus faire signe aux autres d'arrêter, mais ils avaient déjà disparu. Je coupai les moteurs. Un étrange silence m'entoura. Le soleil plongeait derrière l'horizon et une légère fraîcheur montait de la rivière. Où étais-je ? Des feuilles bougèrent au-dessus de moi et une silhouette apparut.